RLP.
C'est Maurice Meulier dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Bon, alors je vous souhaite plein de bonheur, parce qu'il paraît que c'est un signe de bonheur, ça porte bonheur, voilà, le muguet. Oui. Et les petites clochettes, là, plus il y a de clochettes, plus il y a de bonheur. Il ne faut pas compter les feuilles, hein. Juste les clochettes. Hein. Si les clochettes sont rouges, c'est grave. Si elles sont jaunes, ça va encore. Alors si elles sont blanches, oui, le bonheur est assuré. Bon. Je voulais vous signaler, parce que je sais que la plupart de vous connaissez les hydropathes, hein. Ce fameux club de poésie où il y a un certain, mêliez-vous de ce qui vous regarde, qui sévit en tant que président. Ben figurez-vous que le président a refait les statuts de l'association des hydropathes. Il en avait marre des anciens statuts. Alors je vais vous expliquer, article 1. On ne se lève plus quand le président arrive. On ne chante plus la Marseillaise à l'arrivée du président. Article 2. Hein. Article 3. On ne vient plus aux réunions avec des slips en dentelle et des porte-jartelles. Article 4. On attend son tour pour déblatérer des bêtises poétiques. Article 5. On attend le président pour donner les réponses avant les questions. Article 6. On ne vide pas les bouteilles sans l'accord du président. Article 7. On prend son ticket aller-retour à l'arrivée. Article 8. On ne lit pas un torchon sous les fesses. Non, torchons-nous les fesses, pardon. Article 9. Ne prenez pas l'avion pour venir à la soirée, car la rue Paul-Bert n'a pas de piste d'atterrissage. Comme ça, vous savez où on fait nos soirées. Article 10. On doit réserver sa place 4 jours à l'avance. Article 11. Il faut arriver avant 20h31, sinon la porte reste fermée, sauf pour le président. Je vais vous dire pourquoi, parce que souvent j'arrive après 20h31. Article 12. On reste à sa place pendant la soirée pour éviter les mouvements de foule. Article 13. On ne chante pas sans autorisation du secrétaire. 14. Le silence est admis entre deux respirations. Article 15. Il n'y a pas d'article 15, exceptionnellement. Article 16. Les mains doivent être bien à plat sur la table pour éviter les mains baladeuses. Article 17. On ne gaspille pas les virgules flottantes à cause des maux de tête. Article 18, cet article sera le plus long car il comprend l'ensemble du statut sans les points à la ligne qui souvent pêchent par orgueil. Article 19, si vous constatez une main baladeuse, tâtez-la pour en connaître la provenance. Article 20, on verra ça dans 25 ans. Voilà, parce que nous, il n'y a que 20 articles, parce qu'on aime bien le mot vin, oui. Vin rosé, vin rouge, vin blanc, vin de palme, vous voyez. Je trouve que le mot vin, est superbe et beau. Il inspire les poètes surtout. Voilà. Mais, alors, je vous préviens que quand je vais lire ça à Noël Souray Poésie, hein, je ne vous dis pas quand, parce que sinon vous n'allez rien comprendre, hein, les mecs, ils vont être obligés de se mettre au garde à vous. Là, hein. Les mecs et les femmes aussi. Hein. Ah ouais. Bon, allez, on continue. Alors, figurez-vous que j'ai un poème, mais il est un peu trop long. Je vous le dirai vraiment une autre fois quand on m'accordera 3 ou 4 heures d'émission. Parce qu'il fait 2 pages. Hein. Alors, je ne peux pas lire 2 pages. Non, c'est pas possible. Alors, on a un nouveau membre. Il s'appelle Matt. D'ailleurs, il est dans ce fameux groupe, là, vous savez, de Jeff Montaigne, qui a aussi son émission à RLP. Hein. Alors, ce nouveau membre. Les voilà revenus, ces amours impossibles, essoufflés, pénaudes, proches de l'indicible. Les voilà qui s'avancent au chevet du vilain, empêtrés qu'elles sont dans une douleur sans fin. Nous avons failli encore en leur beauté fatale et mourir, fous d'espoir, d'une terrible rafale. Les voilà revenus pour harceler sans cesse mon pauvre corps si nu d'un coup de vent le blesse. Ces heures longues erraient sans âme, juste vêtues d'un drap de calme, abolissant le temps d'usage et porteuses d'aucun présage, ce sont seulement des heures lasses, tout de plomb, toutes de glace. Il arrive parfois qu'en se levant le matin, le ciel ne trouve plus toutes ses étoiles. Il a beau compter et recompter, Une poignée manque toujours à l'appel. Ne le dit à personne, mais lors de mes rêveries nocturnes, j'en cueille chaque fois quelques-unes, les mets dans ma poche et les donne aux oiseaux de mon jardin. Ça, c'est beau, hein. Oh là là. Moi qui ai beaucoup d'oiseaux chez moi, dans mon jardin, je vais faire pareil. Je vais me lever le soir, la nuit, pour cueillir les étoiles et je leur donnerai au petit matin. Ah, il m'a inspiré, ce gars. Hein. Ah ouais, ah ouais. Bon, allez, on va changer de registre, d'accord ? La vie multiple. Alors, la vie multiple, c'est un petit peu, bon, on va pas dire un concurrent de Journal des Hydropathes. Parce que nous, c'est tous les mois, eux, c'est tous les deux mois. Et dans la vie multiple, donc, c'est fait avec les poètes de Bergerac. Hein. Et je fouille un peu dans cette revue que j'achète, alors que le mien est gratuit. Ah, oui, vous voyez, ils font pas de cadeaux, Bergerac. Hein. Alors, c'est un poème de Jean-Claude Delaire, qui s'appelle « La muse et le poète ». J'aime bien quand on parle de poète dans les écrits des poètes. C'est presque normal, d'ailleurs. Un vieux poète qui avait chichement vécu de son art et d'aucun ciel n'avait attendu un miracle, vouait à sa muse une éternelle reconnaissance pour l'avoir enchanté sa vie, sans la poésie qui l'emplissait de joie et d'espérance. Il aurait pu franchir des obstacles jeté par le destin, sur les chemins de son existence, il aurait eu grand-peine à nourrir son esprit. Hélas, le temps passant, son inspiration se tarit. Il perdut le goût d'écrire. « À quoi suis-je bon à présent ?» se dit-il. Il décréta qu'il était devenu inutile et ferait bien de mettre fin à ses jours. La muse, qu'il avait fréquentée autrefois et gardait en mémoire ses poèmes d'amour, vola une extrémis à son secours. Pour lui seul, comme autrefois, elle dansa, chanta, se transforma en étoile filante, aux fleurs des champs et au printemps revenu. Chassant l'obscurité envahissante où le poète s'était perdu, tel le phénix, il ne tarda pas à renaître de ses cendres, et sans attendre, de nouveaux heureux de jouir de la vie sur terre, il s'offrit quelques années supplémentaires dans les bras généreux de dame poésie. C'est beau, hein ? Ben, je crois que je vais faire pareil, moi, tiens. Et à 80 ans, j'ai encore toute la vie devant moi pour écrire. Hein. Et vous savez que les écrits restent, hein, mais ceux qui crient s'en vont. Ouais, c'est connu ça. Hein. Bon. Et alors, on va essayer de voir ce que Alphonse Allais est encore capable d'écrire. Ouais, parce qu'il écrit encore là-haut. Hein. Il fait partie du cercle des poètes dans le ciel disparu. Ouais. Alors, il parle des poèmes suisses. Poèmes, hein, pas poètes suisses. Alors bon, quand on dit poème suisse, il y a obligatoirement un petit suisse derrière, hein, qui est un poète, certainement. Hein. Quand ce monsieur m'eut dit qu'il était poète et suisse, je le priais de s'asseoir. Sans raffoler des poètes, j'adore les Suisses, tout en préférant à ces derniers, mais néanmoins, quelques Suissesses. D'un vaste portefeuille qu'il avait sous le bras, il tira quelques feuillets pleins de menaces. Cet homme allait me lire des vers. Je ne rigolais plus. Avant de commencer sa lecture, mon Helvète tint à me faire sa déclaration de principe en matière esthétique. Exigez-vous que je la reproduise ici ? Non, n'est-ce pas ? Une ligne de point en tiendra lieu, non sans avantage. Monsieur le typographe, une ligne de point, s'il vous plaît. Bien, merci. Ce fut d'abord le fort court poème qui me lut le barde, les poèmes composés de deux vers qui riment d'un bout à l'autre, et c'était déjà permis de me dédier en souvenir de quelques chefs-d'œuvre par moi ciselés dans cette branche d'art naguère. Voilà. Hein. Ça veut dire que, bon, les petits Suisses, au final, ils préfèrent le lait. Hein. Ouais. Alors, il paraît que il y a des concours poétiques, ouais, il paraît. Alors là, on va voir les résultats et la distribution des récompenses. Ouais, figurez-vous, ouais. Tout arrive, même le jour, le beau jour où le vrai mérite est enfin récompensé. Beaucoup de nos lecteurs, je m'efforce à constater la chose sans amertume, se sont, avec une farouche constance, refusés à prendre au sérieux mon petit concours poétique. Jouissons à cette heure de leur confusion et rappelons à l'intention des personnes qui se trouvaient alors en pays étranger les conditions bien simples de cette superbe joute. Fournir un distique dont l'un des vers comptera le plus petit nombre possible de lettres, et l'autre le plus grand nombre. Alors, le plus petit nombre, c'est quoi ? Hein ? Jacqueline, c'est quoi ? Ah, tu m'écoutes pas ? Alors, je répète ma question. Quel est le poème le plus court, qui a le moins de lettres ? A ? Mais le A sans le H ? Ou le A avec le H avant, ou le H après ? Sans rien du tout, le A tout seul. A ! Bon, pourquoi pas ? Bon. Mais c'est pas avec ça que tu vas gagner le concours, hein, je te préviens. Bon, enfin, je continue. Hein. Et alors, il n'y eut pas par bonheur que des sceptiques et un millier environ, exactement 996 des concurrents, m'envoyaient bientôt le fruit de leur élucubration. La foi de tous ces rimeurs en œuvre offrait un spectacle vraiment touchant. Chacun d'avance déclarait certain de détenir le record. Comment un autre pourrait-il donc s'y prendre et réussir à composer un vers plus court que celui-ci, plus long que celui-là ? La plus pauvre plupart de ces candidats, dans candidats, il y a aussi Candide. Hein. S'ils jettent un coup d'œil sur les distiques suivants et qu'ils reconnaissent la bonne grâce comme s'ils se trouvaient loin du compte, ajoutons que beaucoup de concurrents ont présenté des distiques composés, en effet, des vers très courts et d'un autre fort long, mais le tout d'une facture inconforme aux plus élémentaires lois de la prosodie ou n'offrant que signification inacceptable, saugrenue. Ces produits, leur auteur, ne sont pas étonnés. Je pense que, mu par un âpre sentiment de justice, nous les ayons éliminés impitoyablement. Hein. Ben oui. Entre tous les autres envois présentant non seulement un sens intelligible, mais encore une valeur poétique réelle, la sélection ne manque pas, vous pensez bien, d'être assez délicate. Hein. Ne connaissant personnellement aucun de ces vaillants lutteurs, nous n'avions aucune raison de favoriser l'un plutôt que l'autre. Et l'impartialité la plus grande ne cessa, je le jure, de présider à nos choix. Ce préambule énonçait passons au palmarès. Ainsi que plusieurs de ses collègues, notre grand gagnant, M. Étienne Bernard, Neufru, Édouard de Tagues, usant d'un artifice parfaitement légitime, d'ailleurs, a vu obtenir un vers aussi court que possible, en passant des lettres par des chiffres, mais plus habile que les autres, il réussit pleinement à composer un distique des plus pittoresques. Voyez plutôt. Coup d'œil sur le mouvement insurrectionnel en Vendée à la fin du XVIIIe siècle. Oh, ben voilà. Je m'arrête là parce que je viens de remarquer qu'il y a encore 3 ou 4 pages. Et là, vous allez faire la gueule, hein, si je vous lis le reste. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Bon, allez. Allez. On va... Alphonse Allais, on verra ça plus tard. Vous savez que il y a eu, il n'y a pas longtemps, là, le salon du livre illustré à Esquire, et il y avait le président de la fondation Alphonse Allais qui était là. Ouais. C'est toujours le même. C'est un peu comme pour les hydropathes. Vous voyez ? Bon, lui, c'est peut-être pas 25 ans hein, qu'il est là. Bon, encore qu'il est... Oh, il est un peu plus jeune que moi. Quoi. Il doit avoir 18 ans. Moi, j'en ai 80. Non, je blague. Bon, allez, tiens, pour la peine. On va vous passer quand même un petit peu de musique. Hein. C'est pas parce qu'on est le premier mec, hein, on ne doit pas. Hein. Jacques Brel, Les Marquises.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. et par manque de brise, le temps s'immobilise aux marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Et voilà, nous étions aux marquises. Ah, il paraît que c'est chouette là-bas. Je connais pas, malheureusement. C'est dommage. Alors moi, je vais vous dire une chose. Il y en a marre de la télé. Je fais écrit le 16 septembre 2024. J'ai regardé sur la chaîne synthétique pendant 1h24 et j'ai découvert le cinéma que faisaient mes slips avec mes mouchoirs. Incroyable. Le slip avec des dessins de canard jaune voulait se moucher avec mon t-shirt préféré, celui avec Bob Marley dans le tambour. Sur le coup, je voulais arrêter au cas où le slip avec ses fraises rouges serait jaloux de Bob Marley, mais en fait, c'était avec celui de Che Guevara. Est-ce possible de programmer de la jalousie dans une machine, faite pour s'aimer en prenant des bains de mousse? Il me faudra attendre 1h24 pour les séparer et voir si le sang n'avait pas coulé. L'essorage calma tout le monde, même les mouchoirs et la chaussette orpheline. C'est sur la corde de séchage que tout le monde reprit sa place dans l'ordre des choses, sauf le pantalon, qui en disait long sur les slips qui se trouvaient à l'intérieur de lui après les avoir remis. Voilà, hein, c'est pas beau comme poème, ça. C'est du poème, comment on pourrait appeler ça, journalier. Un poème de lessivage, par exemple. Hein. Vous savez, c'est beaucoup plus joli de regarder pendant 1h24 sur la chaîne synthétique que TF1, TF2, TF3, TF4. Ah oui, c'est beaucoup plus beau. Oui, moi j'adore. Des fois, je regarde même la chaîne synthétique quand c'est des sous-vêtements féminins. Oh, c'est chouette. Oh, vous verriez. Oh là là, c'est superbe. Quand vous voyez la dentelle qui s'aime, elle se colle l'une contre l'autre. La dentelle, la rose, la noire, la blanche. Ça fait comme des fleurs. En fait, ça fait comme un hublot avec des fleurs dedans. Où ça va très mal, c'est quand c'est les soutiens-gorge qui arrivent. Alors là, ils foutent le bordel avec les les, comment on appelle ça, les courroies, là, les espèces de trucs, là, vous savez, et puis les attaches. L'autre jour, je ressors de la machine à laver une quinzaine de soutiens-gorge. Ils étaient tous accrochés les uns aux autres. Ça faisait une chaîne d'au moins 25 mètres de long. Ouais, incroyable. Je savais même plus comment les suspendre. Hein, parce qu'en général, vous les suspendez un par un. Hein, par une des attaches. Là, impossible. J'étais obligé de les accrocher par les bretelles, les unes après les autres. Et alors, je me suis retrouvé avec une espèce de guirlande. On serait cru au 14 juillet. Surtout qu'il y en avait. Il y en a un qui était bleu, l'autre à côté qui était blanc, et l'autre qui était rouge. Alors là, j'ai dit, ça y est, c'est la fête nationale. Non, c'était pas la fête nationale, c'était un jour de semaine comme d'habitude. Oh, bon allez, soyons sérieux. Alors, nous avons ici même une certaine Paulette Boucalo, ancienne hydropathe. Partie, je ne sais même pas pourquoi, mais bon, elle a quand même eu la chance de faire un livre qui s'appelle « Impressions poétiques entre chien et loup ». Et je vais vous lire un de ses poèmes. Alors elle s'adresse un peu aux hydropathes, tout compte fait, hein, parce qu'elle parle des tourments hydropathiques de la dame du carrefour hydropathine. C'est elle, au sommet de la colline, hydropathine, butine, le nectar mafieux d'un bourdon bolliqueux. Cette écrivacine, un peu bécassine, circule souvent à double sens, en oubliant le sens inverse, à la fin d'une averse. Du haut de son coteau, hydropathine, fulmine, tout en mordant la queue de son piton et phyton rocheux. Alors, piton ou piton rocheux, c'est-à-dire qu'il y a le piton rocheux, et puis il y a le piton, le serpent. Hein, bon. Cette insupportable gamine assassine Verlaine, sans la moindre peine, en jonglant avec les mots, en tant soit peu falot, qui apostrophe ses amis. En leur fissurant l'esprit, cette hydropathine s'incline devant les hydropathes, féroce, consciente de son inconséquence, elle évacue toute idée de postérité pour son œuvre, non labellisée, mais imbibée selon son humeur d'eau de rose, de rosée frais et de frêle rosée dans la demi-obscurité d'un matin frisquet. C'était en octobre 2005 qu'elle a écrit ça, vous voyez. Bon. Alors elle a fait tout un bouquin hein, qui a, je ne sais pas, allez, on va dire simplement 75 pages, ouais, quand même. Hein. Bon. Mais on les lira une autre fois, hein. On ne va pas tout lire d'un seul coup. Hein. Ouais. Alors, Claude Mercuteau, oh, alors ça, j'adore. C'est un mec que j'ai connu à, je ne sais plus, un salon de la poésie, d'ailleurs. Alors, c'est le seul qui fait comme moi, le jour, la date, le mois, l'année et l'heure. Alors, vendredi 23 novembre 1990 à 4h20 du matin. Vous voyez, comme moi. Et on n'a pas copié, hein, parce qu'il a dû le faire de son côté sans me connaître, et moi j'ai fait de mon côté sans le connaître. Voilà. Poème au vent. Si je pouvais laisser, ne serait-ce un seul poème aux hommes derrière moi, une voix qui murmure, la douce mélopée de tendresse et de paix, la suave harmonie comme un parfum d'automne. Odeur d'herbes mouillées, de feuilles frissonnantes aux fuites des beaux jours vers d'autres horizons. Chuchotis indistincts, mêlés au vent frileux, dont les premiers soupirs gonflent les jupes des filles, décoiffant leurs cheveux sous le clair soleil froid. Que poussière de mots et ces bribes de phrases, jetées ici en vrac par cette nuit glaciale dans l'hiver de ma couche, trop vaste et solitaire. À mon avis, il dort tout seul, comme moi. Fondant mon sommeil en cette belle assemblage de couleurs chatoyantes, que mon âme dès lors s'estompe et se dissolve dans l'odeur d'un sous-bois dont le tapis roussi annonce la torpeur et l'engourdissement, prélude au long hiver, je revivrai ainsi dans les chants des oiseaux. Au retour du printemps, ce poème peut-être s'envolera au vent. Voilà, c'est beau, hein. Ah, j'aime bien, il écrit bien, hein, mais j'ai pas de nouvelles de lui, c'est ça qui m'emmerde, parce que on va savoir s'il a pas fait, il a dû faire d'autres poèmes, s'il est encore vivant. On ne s'arrête pas quand on est des poètes. Hein. Sur son lit de mort, on continue d'écrire. On meurt le stylo à la main, hein, ou le clavier à la main. Oui, c'est normal. Hein. C'est normal. Mais attendez, vous ne savez pas. Hein. Alors, tiens, un autre poème que j'ai écrit en 2004 aussi, le 25 décembre, figurez-vous. Un jour de Noël. Hein. Et vous verrez, le thème n'a rien à voir avec Noël. Là, il était 19h23. Donc. Alors, c'était peut-être juste avant le réveillon de Noël, hein, le repas de Noël. Qu'est-ce qu'un poète ? Sinon quelqu'un qui ne sait pas écrire sans faire des ronds de jambes avec les mots et les phrases malmenées par la main. Il ne pense pas comme les autres. Et c'est pour cela qu'il préfère l'écrire que le crier à tue-tête. Il rêve souvent que la terre est belle et fidèle, alors que les autres font tout pour la dominer et la tromper. Le poète chante, chante ce qu'il écrit. Les autres, parfois, font chanter ceux qui écrivent. La vie, je regarde la vie avec passion et respect, alors que les autres pillent la planète comme pour en finir avec cette boîte de chocolat restée sur le piano. Le poète ne se sent seul parce qu'il est multiple et égoïste. Le poète, il raconte sa sensibilité, en croyant que les autres en prendront de la graine pour en s'aimer un peu plus. Le poète ne sort jamais nu. Il se couvre d'une légère brume comme un voile de pudeur doublé avec de la sensibilité. Le proseur est éternel par ses écrits qui lui rapporteront la gloire plusieurs siècles après. Voilà. Et en plus, c'est vrai. Hein. On avait prédit que Jean Boussu, il serait célèbre dans 3 siècles. Et là-dessus, on a rajouté Maurice Méliès sera célèbre dans 4 siècles. Moi, ça me suffit hein, que dans 4 siècles. Oh, je sais pas, pourquoi être célèbre demain hein ? Ça sert à rien. Bon, parce que mes livres... ou du moins mes poèmes, coûteront beaucoup plus cher dans 4 siècles. Et j'en toucherai les royalties. Enfin, pas moi, non, moi, ça sera terminé. Mais peut-être mes descendants, hein. Enfin, mes descendants l'escalier, surtout, ouais. Bon, allez, Méli, arrête tes conneries. Alors, tiens, on va quand même repasser un petit morceau de musique, histoire de changer un peu. Yves Montand, il va chanter du Prévert, les feuilles mortes. C'est pas du tout le moment, un premier vœu, bon. C'est pas grave.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Voilà. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, lui. Hein. Ah là là. J'aime bien ces chanteurs-là. Hein. Des mecs comme Jacques Brel, Yves Montand, Gainsbourg, Léo Ferré, Jacques Dutronc même. Ben, Lavoine, par exemple. Et ben on m'annonce que le 1er mai est terminé. Bon, ben tant pis, je ne vous lirai pas la poème sur Gribouille. Je vous lirai un autre jour. Hein. D'accord. Alors, je vous souhaite... un bon 2 mai, 3 mai, 4 mai, 5 mai, mais 6 mai, mais attention, hein, bon, 6 mai, il faut faire attention, hein, mais abstenez-vous de trop boire le 6 mai, hein, bon, oui, parce que c'est, il va tellement pleuvoir que votre, l'apéritif va être trop mouillé, voilà, hein. Bon, allez, Jacqueline, tu me prépareras mes frites belges pour midi ? Ouais ? Ah, t'es gentil. Allez, je vous embrasse tous.